Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 28 novembre 2009. Nos programmes pour cet après-midi à 13h15 du sport. Les résultats sportifs en direct des vestiaires de l'infirmerie à 15h du reggae et à 17h. Radio FMR, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89,1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici la psychanalyse des dessins animés japonais que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Alors comme d'habitude, je vais commencer par la quatrième de couverture.
Vas-y.
Dans un monde où les super-héros sillonnent le ciel ou rôdent la nuit, quelqu'un doit faire en sorte qu'ils ne dépassent pas les bornes.
Radio FMR présente... Le supplément week-end. Le magazine des cultures geek avec du sport, Ultimatum, Das Creech et la participation exceptionnelle de JB.
Eh ben bonjour, bienvenue pour ce supplément week-end en pré-enregistré, puisque en fait là on enregistre, il est 22h30. Oh, ça tombe bien.
Bonjour.
Parce que d'habitude on émet à midi, mais là 22h30. Ah oui, ça sera diffusé le lendemain à midi. Je sais pas si on pourra parler de hentai dans ce cas-là, truc comme ça.
Ah ben là on peut le diffuser à cette heure-ci, mais demain quand on. Enfin, amis auditeurs, quand aujourd'hui maintenant, ben on pourra pas.
Oui, parce que là on fait un truc, c'est un retour vers le futur et tout ça. On vous explique là en ce moment pendant qu'on vous parle en direct à la radio, on n'est pas en direct, on est en différé. On a préenregistré cette émission et on est au Toulouse Game Show, troisième édition du nom. Parce que ça nous faisait chier d'aller au studio faire notre direct, etc. Puisque là on n'a pas pu faire notre programme sur place comme on l'avait fait les années précédentes. Et on s'est dit, ah non, ça va être casse-pied de retourner au studio, avoir la fumée et tout, etc. Alors, d'un commun accord démocratique, on a décidé que du sport serait à notre place pour appuyer sur play.
C'est surtout qu'on voulait changer d'expérience cette année.
Je crois qu'on va se faire haïr. Donc, bonjour et bienvenue. Et de suite, eh ben, on va se transposer à, il y a quelques heures en arrière pour nous, on a été déjà sur place à La Beige, à l'espace Diagora, pour justement voir un peu ce qui va se passer en ce moment. Et je vais jamais m'en sortir avec ces futurs antérieurs. On y va! Eh ben... De quoi ?
Tu peux faire le sujet derrière le panneau
d'Ascalon. Non, écoute Thomas, non, on est censé là quand même faire l'introduction pour l'émission de demain, là tu m'agaces quoi. Tu vois. Oh, et puis c'est de la radio, les gens ils peuvent pas comprendre, il faudrait qu'ils aient la vidéo pour qu'ils comprennent le gag. Ah mais t'as pris, d'accord, et la vidéo. Bonjour et bienvenue, c'est le supplément week-end numéro 217. Et nous sommes donc, non pas en direct, mais cette fois-ci en différé du Toulouse Game Show, c'est la troisième édition du nom. Et... comment dire, ça a toujours lieu au Diagora. Et on s'est dit, la première édition, c'était seulement sur la moitié de la surface. La deuxième édition était sur une surface beaucoup plus ample. Comment ils vont faire pour contenir tout ce monde uniquement dans un espace aussi réduit? Et ben, finalement, ils y sont arrivés. Et ça, vous pourrez vous en rendre compte si vous y rendez, bien évidemment. Mais on est là aussi pour vous donner un témoignage pour tous ceux qui nous suivent sur le podcast ou sur le net et ou tous ceux qui, sur Toulouse, n'ont pas pu y aller parce que, après tout, ce sera un week-end, je crois qu'ils annoncent la pluie, hein, quand même. Enfin, bref. Il y aura des invités prestigieux. Il y aura notamment, on vous le montrera tout à l'heure. Ah merde, non, c'est de la radio là que je fais. On vous le montrera tout à l'heure. Il y aura le trône de Corinne Nemec. Parker Lewis, après tout, ne perd jamais, bien évidemment. Et il y a plein d'autres choses qui seront à voir. Justement, on a vu tout à l'heure un musée de prop, c'est-à-dire d'accessoires. La plupart sont reconstitués quand même, ils nous l'ont dit, autour d'Indiana Jones. Et quand même, ça nous fait monter notre petit côté aventurier et tout ça. Ça tombe bien, Indiana Jones sort en jeu Lego, en ce moment, donc après tout, pourquoi pas. Mais on n'est pas là que pour ça, on va vous faire un petit tour. Allez-y monsieur, passez, on ne fait que de la radio. Vous ne gênez pas les caméras. Ne vous inquiétez pas, Thomas lui aussi, ben, pour une fois, c'est lui qui est à l'aréa. Tiens, et on va vous montrer sonorement différents trucs entre nous. Comme ça, un petit tour pendant le montage des stands. C'est pour ça que vous entendez le brouhaha qui est différent du brouhaha habituel de la foule. Alors ici, vous avez donc une école de DJ. C'est un peu peut-être pour les faire rentrer, je sais pas, radio éphémère, je sais pas. Je suppose que là, c'est une nouvelle future star de la drum and bass, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez du dernier album de Easy Roller? Est-ce que vous pensez que franchement, il est revenu au niveau par rapport à ce que fait à côté Pendulum? Alors si vous voulez déconcentrer un joueur de Rhythm and Game, c'est très simple, il suffit de lui parler en même temps, lui tendre un micro, ça tue tout. C'est absolument génial, j'adore ce sport, celui d'être le pire emmerdeur qui soit. Et quand même, non mais il faut regarder devant hein, pour tenir le rythme. Alors comme vous le voyez, il a deux pistes de fade pour s'amuser, un scratch pour faire squeezer un peu le type le disque et une piste d'effet. À ce qui paraît, il y a un nombre assez conséquent de morceaux dessus. Moi personnellement, vous me mettez deux techniques STB 1200 MK2 et une vraie pionnière. Moi je m'éclate largement plus. Bon après ça dépend des disques que vous mettez derrière. Hein. Si c'est un vieux Tino Rossi qu'il faut mixer avec la symphonie de Mahler le Titan, ça marche un peu moins bien sûr. Thomas, je te vois faire un plomb long là sur les tenues tout droit sorties, on dirait de. Mince, j'ai oublié le nom du
cadre.
De Harajuku, voilà. Ah, Harajuku.
Il fallait se souvenir de la chanson de Gwen Stefani.
Ah putain, tu parles de référence J-pop, toi.
Ben oui, tout à fait. Alors là, en fait, on est devant des habits assez courts, en fait, pour les jeunes filles, avec des bonnets, avec des oreilles de lapin, si vous voyez un peu le style visuel.
Ah non, en général, les bonnets, c'est B, C ou D.
Alors là, est-ce que tu as déjà commencé à prospecter pour les cadeaux de Noël de Chantal?
On n'avait dit pas les prénoms, mais effectivement, une petite robe de princesse, ou je sais pas, ou... Ah, c'est pas mal, ce petit accessoire avec la chaîne en verte fluo sur le truc de maid. Ah non, je crois que c'est l'antivol.
Moi je dirais que c'est tellement court qu'on pourrait pas appeler ça des robes, hein, mais sinon c'est très sympa, il faut...
Non, ça c'est pas des robes, c'est des hauts. C'est normal que ça soit court, tu vois,
oui.
C'est pour... Hein,
oui, tout à fait.
Mais c'est d'été.
Mais t'as des froufrous quand même, hein, regarde mieux.
Ah... Non, mais je crois que là, si jamais nos copines écoutent, après elles vont vraiment nous traiter d'obsédés, et comme il va falloir mixer après chez moi, elles vont être derrière. On peut changer de sujet.
D'accord. Retour.
Oh, des oreilles de lapin. J'y vais. 1, 2. Alors j'y vais. 1, 2. Ça tourne ? Non, tu es pas prêt encore. Vas-y, tu fais le point sur moi. Vas-y. Moi, ce que j'adore, tu vois, c'est faire chier le caméraman et bouger tout le temps. Hop. Et nous sommes en face de la Porte des Étoiles. Cette année, la Porte des Étoiles n'est plus sur la scène principale. Elle est un petit peu à part. Et c'est pas une mauvaise idée, puisque justement ils l'ont mis à côté, je vais dire, du trône de l'auteur star qui est de l'acteur star qui est invité, puisque c'est Corinne Nemec qui donc est tout simplement présent à la fois pour son rôle inoubliable du grand Jonas Quinn, absolument un. Non, c'est un rôle secondaire, c'est ça ? Dans la série Stargate, ouais, je me disais aussi. On va encore me faire flinguer par Madame du Sport, mais elle sera là demain évidemment pour rencontrer Parker Lewis. Est-ce que vous avez vu une fois cette série? Ah, vous êtes peut-être un petit peu trop jeune, ou vous étiez trop vieux déjà à l'époque pour être complètement fan. Parker Lewis, c'était une série d'un adolescent, d'un lycéen qui ne pouvait pas perdre. Alors évidemment, un petit peu, je vais dire, beau gosse, mais il n'y a pas que ça. Il y avait aussi les célèbres chemises qui étaient tout droit issues des rideaux de douche fluo de l'époque et l'improbable, je vais dire, coiffure. À ma connaissance, il n'y a que Conan O'Brien qui a encore une coiffure comme ça maintenant. Si vous ne captez pas CNBC, vous pouvez pas savoir de quoi je parle. Bref, Parker Lewis était vraiment une star des années 90, au tout début, mais ce qui a surtout fait cette série, c'était son humour délirant et son montage. C'était un montage qui était complètement furieux, et il y avait l'interprétation, bien évidemment, des stars de la série. Depuis, je crois qu'il y en a un qui se retrouvait dans un service d'urgence et qui a arrêté de manger les pizzas, et l'autre, je ne sais pas, à mon avis, Madame du Sport va me tabasser dessus avec son intégrale des séries télé pour me dire ce qu'il est devenu.
Il mangeait pas des pizzas, Kubiak, il mangeait des sardines.
Des pizzas, il y avait des cartons de pizza, tu vois, grands comme ça, comme on avait seulement au restaurant La Grande Pizzeria, ancienne version, enfin bref. Alors par contre, c'est une particularité tout à fait américaine. Si vous rencontrez une star américaine de la musique, de la bande dessinée, ou du cinéma ou de la série télé, il faut savoir qu'ils font payer leurs dédicaces. Donc ces dédicaces seront payantes, 20 euros. Ils y gagnent beaucoup avec le cours du dollar hein, actuellement. Et ça, c'est une pratique qui est assez particulière. Il faut savoir qu'en France, quand on est acteur en France dans une série quelconque du jeudi soir de la Une qui est rediffusée après X milliers de fois sur la chaîne AB, on touche des droits à son apparition. Aux États-Unis, il n'en est rien. Quel que soit, je vais dire, le nombre d'entrées que fait un film ou le nombre de fois qu'une série a été multidiffusée, eh ben, ils ont touché leur chèque une fois pour toutes et puis c'est tout. Donc le seul moyen pour eux de gagner des sous, de se faire une retraite s'ils n'y ont pas franchement pensé ou s'ils ont un moment à creux, eh ben, c'est de faire des conventions justement, comme le Toulouse Game Show ou encore eh ben, comme le Comic-Con à San Diego, pour se faire un petit peu de pognon. Donc c'est ce qui explique pourquoi eh ben, il faudra payer si demain vous voulez une carte de visite. Mais comme je sais qu'il y en a qui sont prêts à tuer pour une dédicace, hein, ça va, hein, c'est 20 euros, c'est moins quand même que la perpète. Alors là, je me marre, pas seulement à cause de cette superbe figurine de Arae-chan, dans Dr. Slump, c'est parce que comme les stands sont en train de déballer et tout ça, Thomas a marché sur un scotch tout à l'heure, et non mais tu l'as plus, hein, je te l'ai enlevé, et comme il est en train de tourner, c'est un petit peu cata. Alors ce qui est très drôle, que vous ne pouvez pas voir, puisque là c'est de la radio, c'est que il y a vraiment tout ce qui fait contre-culture. C'est-à-dire, on a des statuettes de dessins animés japonais. Là, on est au stand de Toy Star. Des trucs de films, que cela soit BioShock, Resident Evil, et aussi des séries américaines ou des films comme Terminator 2 et Judgment Day. Mais il y a aussi, et alors là, il faut que je prenne le preneur de vue par là et je lui dise, regarde ce qu'il y a là, mon coco. Il y a même des masques de luchos mexicains. Et ça a l'air quand même d'être de la qualité, pas trop mal. Parce que t'as vu, t'as bien la fermeture éclair et tout ça.
Ce que tu oublies de dire à côté des masques de luchador mexicains, c'est que tu as les maillots des équipes d'Olive et Tom en dessous.
Non mais ça c'est du foot, je m'en branle. Alors là, on est en train, de rigoler, de. Ouf. Là, ils sont en train d'essayer la sono, donc vous les entendez pas là, mais il y a un putain de coup de basse qui vient de passer en travers la figure. On est en train de rigoler, mais on va vous montrer une personne. Vous l'avez vu l'an dernier à la radio. Si vous êtes passé sur notre podcast de l'an dernier sur direct qu'on avait fait justement le supplément week-end au Toulouse Game Show. Eh ben, on a Tibi Robocop, mais cette fois-ci, je vais dire sans le maquillage. Et de suite, ça change.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va, depuis l'année dernière.
Eh ben, c'est. Alors, on en avait parlé beaucoup, je vais dire, de la série, puisque tu étais avec le réalisateur de la nouvelle série, enfin, mini-série canadienne. Pardon, excuse-moi.
C'était le Prime Directive, ouais.
Prime Directive. Bah oui, tu es largement plus calé que moi de ce côté-là. Il n'y a pas à dire. Moi, je me fais flinguer dans les commentaires, hein, parce que des fois, je me trompe ou je dis des grosses conneries à l'antenne.
L'erreur est humaine. Après tout, nous sommes que des humains.
Oui, mais là, tu peux vraiment me foutre un coup de pistolet de visiteur dans la gueule. Donc, non. Je me méfie. Parce non. Que là, tu as changé de costume cette année.
Voilà, cette année, c'est un thème plus light pour des raisons de santé, en fait. Hein, pas pour. Pas... Oui, mais bon, c'est préférable parce que sinon après les gens ils vont croire que je suis plus fidèle à robot, donc pour mon confort à moi-même. Voilà. Donc, voilà.
Alors justement, question technique, toi qui captes les chaînes américaines, est-ce que tu as vu justement la nouvelle série V telle qu'elle a été diffusée sur ABC? Et toi, quel a été ton ressenti de ce côté-là, si tu l'as vu?
Alors moi j'ai vu les épisodes, oui, jusqu'au 8e pour l'instant, hein, j'ai même un profil chez ABC. Et donc en fait le truc c'est que moi j'étais un petit peu, j'étais agréablement surpris par les effets spéciaux, hein, je pense comme tout le monde. Ce que je trouve dommage c'est qu'ils ont fait des erreurs monumentales par rapport à l'écriture de Kenneth Johnson. C'est-à-dire que de dire par exemple que les V sont là depuis des années et ils se cachent dans le gouvernement, dans les trucs comme ça, alors qu'il n'y a aucun intérêt à faire venir un vaisseau mère avec tout le patafin que ça peut engendrer derrière, c'est-à-dire tous les côtés science-fiction, économique, etc. de la société actuelle. Et je pense que ça a perdu un petit peu de son charme aussi dans les uniformes qui sont devenus très très soft, on dirait un peu des tenues de caissière un peu, hein, voilà quoi, pour pas citer de marque.
Assez gentil pour du coup, comme toi tu justement Tu n'as pas pu venir cette année donc en tenue de robot, mais je crois que le côté de ta passion, tu la vis quotidiennement et tu la vis à fond. Tu es toujours dans ton tournage.
Oui, toujours dans le tournage Robocop versus Predator. Ça avance. Pour l'instant, on est en attente d'autorisation de tournage. C'est assez compliqué pour la simple et bonne raison, c'est que on change des fois de caméra pour avoir des sensibilités au niveau de la lumière, etc. Donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est toujours en tournage et on s'active pour les fans. Hein. On pense à eux, on pense à eux. On travaille beaucoup, beaucoup, mais c'est pas évident parce que c'est pour le bon vouloir de chacun et on fait avec les emplois du temps de chacun. Voilà.
Bah écoute, nous on est très heureux de te revoir à Toulouse, donc on va te souhaiter un chouette week-end. Ouais,
merci, vous aussi, bonne continuation.
Merci. Oh, j'y crois pas. Oh, c'est du beau. Oh, bon, classique, la Super Nintendo, classique. Par contre, c'est quoi? C'est une Nintendo 64 qui est carrossée avec les couleurs des premiers iMac Apple. Blanc et bleu translucide. Regarde, c'est pas beau ça? C'est chou comme c'est mignon, comme ça fait vraiment cheap. À l'époque, ils ont pu vendre ça, mais c'est quand même fou. Oh. Alors dans le rétro gaming, ce que j'adore, c'est qu'il y a des trucs, on a osé vraiment tout et n'importe quoi dans l'industrie du jeu vidéo. Par exemple, Ruby. Je t'en souviens pas ça. C'était un accessoire qui valait super cher. Soi-disant, ça te permettait de jouer avec un deuxième joueur robot sur la Nintendo, sur la NES de base. Et je me souviens, on était tous fans, et puis maintenant tu le regardes et tu te dis, ouf, était un petit peu vieux plastique. Il n'y a pas tout son support, c'est un petit peu dommage. Il y a tout un rang de consoles. Alors évidemment, il y a toute la génération Sega, la Master System, la Mega Drive, la Mega Drive 2. Il y a la Game Gear, oh punaise, Game Gear. Il y a la console d'Atari, la Link, la console portable. Ça leur a coûté une fortune cette histoire. Une console qui avait vraiment des capacités immenses. Et vraiment, ils sont passés à côté de quelque chose de fabuleux, point de vue marketing. Le Neo Geo, c'est une console mythique parce que c'était les mêmes que celles qu'il y avait dans les bandes d'arcade. Les prix des jeux aussi étaient mythiques parce que ça dépassait quand même à l'époque les 800 francs. On s'en souvient un peu quand même, hein. On rêvait quoi devant, on ne pouvait pas les acheter. Il y a, oh, la Family Computer de Nintendo, c'était la NES originelle telle qu'elle était au Japon. Et la Sega Mark III, celle qui allait être justement la Mega Drive en France. Et c'est là où on voit quand même que le design qu'ils ont fait pour l'Europe, enfin pour l'international, hein, pour l'Europe et pour les États-Unis, était complètement différent du design qu'ils faisaient pour leur marché intérieur. Alors ça, c'est une console, tu vois, que je connais pas. C'est la Twin Famicom de Sharp. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ah oui, non, mais là, je suis comme un gosse devant des vieilles machines et tout. Alors, d'accord. Ah, devait avoir un truc à cartouche pour la Famicom et mettre une autre cartouche sur le côté. C'est dommage, hein, je me suis toujours pas mis au japonais. Ah, la Virtual Boy, tu sais comment ça marchait, la Virtual Boy? C'était une console où tu pouvais voir en relief. Alors pour cela, c'est très simple, c'est qu'en fait, c'était des espèces de petites lunettes qu'on mettait sur un petit trépied qui était là, et on regardait à l'intérieur. Alors, comment ça marchait le dispositif? C'était des petits miroirs qui vibraient, avec un système de diodes qui faisait le balayage. Donc, ce qui fait qu'au bout d'un moment, t'avais un putain de mal aux yeux, c'était pas pratique à voir. C'était pas une console qui était une super invention, ça... Je vais être modéré, mais quand même pour Nintendo, ça a été un chouette four. Ça, c'est une version de la GameCube que l'on n'a pas vue en France, qui était vendue qu'au Japon, qui faisait le lecteur DVD et recarrossé un peu comme les mini PC qui sont toujours très en vogue au Japon dans ce format-là. C'est quand même fou, quand même. Oh, la PCFX, la PC Engine de NEC, c'est... Alors, ça a un nom de PC, mais faut se méfier, c'est pas un vrai compatible PC, c'est un ordinateur familial japonais qui était très populaire hein, là-bas, qu'on n'a pas connu en France, un peu dans le style de la MSX ou de l'Amstrad CPC, donc ça avait rien à voir avec le PC. Toutes ces heures de mercredi après-midi à gâcher, à faire du sport, alors que j'aurais pu m'entraîner à des jeux vidéo et devenir un tueur et sauver la Terre face aux envahisseurs. Oh,
on y va ? 1, 2, 3, je t'en prie. And so we are on with Corinne Nemecorine. Hello, how are you ?
Hi. Synchronization of a watch. Oh.
No, I don't have any, you know, in France, if you have a Rolex before 50, it's not very good. Okay. I see your Twitter account on the website, and you said, I'm pissed off about everyone who say I'm no life. I'm not a no life. I live elsewhere.
Yes.
Didier, bonjour.
Bonjour.
Donc, malgré mon accent anglais absolument pitoyable, on a reconnu, c'est l'un des acteurs de la série Nerds que l'on a interviewé il y a un an et demi à Japan Expo. Et donc, cette année, c'est l'un des particularismes de... Non, mais on fait de la radio, là.
Ah, mais pourquoi il filme, lui ?
C'est parce qu'on fait de la radio en stéréo, maintenant.
Bah, je m'en fous, merde, je peux malgré tout te répondre dans le cadre.
Cette année, il y a vraiment... No Life qui est venu en force et tout ça. Alors on sait que tu es dans le secret des dieux, que tu participes encore beaucoup à la chaîne.
Non, pas du tout.
Ah non, pardon. Non, je sais pas. Ça doit être son activité, je pense, dans son groupe musical Les Rois de Suède.
Oui, c'est Les Rois de la Suède, mon groupe. On est d'ailleurs bientôt en concert en région parisienne. Faudra pas hésiter à venir nous voir.
D'accord. Bah, on y songe pour tous ceux qui nous écoutent en région parisienne. Les autres, ils s'en foutent. Non, je sais pas, je passais comme ça.
T'es pas au point avec tes questions. T'étais peut-être pas préparé aussi.
Ouais, je crois que c'est, je sais pas, je me sens un petit peu à part.
Alors je vais te demander de te présenter, etc. Parce que on n'a pas les sous-titrages encore à la radio et tout, donc on va y aller comme ça, sans coupure, on s'en fiche. Bonjour.
Bonjour.
Donc qui es-tu ?
Je suis Thibaut Duchella, j'ai 37 ans et un grand fan d'Indiana Jones, et c'est pour ça que je présente l'expo sur ce TGS, sur cette édition du TGS.
Alors, on a tout à l'heure fait une petite mise en bouche en rigolant un petit peu, en disant qu'il y avait beaucoup de contrefaçons du Saint Graal. Quelle est la particularité, justement, de cette exposition? Est-ce que c'est des vrais propres ou non?
Non. Alors, cette exposition, c'est 100% de la reproduction faite par mes soins. Donc, toutes les pièces que vous pourrez voir en dehors des machines à écrire et des armes, c'est des choses que j'ai faites moi-même en m'inspirant d'images du film.
Alors, l'an dernier, il y avait une exposition autour de Robocop, sur lequel ils avaient réussi, on avait l'armure du deuxième film, si je me souviens bien, puisque c'est la bleue. C'est un peu comme les Power Rangers, faut suivre les couleurs. Et comment ça se fait justement que c'était une volonté personnelle de vouloir tout reconstruire, ou c'est parce que c'est plutôt difficile finalement de trouver justement
c'est un plaisir de refaire les accessoires du film sans dépenser des fortunes pour les avoir. Déjà, pour avoir des originaux, c'est des milliers d'euros, donc je n'ai pas. Et c'est pour pouvoir aussi faire bénéficier aux visiteurs de pouvoir présenter les différents accessoires du film qu'on peut voir dans les quatre films Indiana Jones.
Alors comment tu travailles ?
Images arrêtées, bouquins.
Je travaille pas mal sur effectivement sur les images arrêtées, sur des différentes images qu'on peut trouver sur Internet, sur les bouquins, sur les jeux vidéo aussi. Et après, je travaille beaucoup avec Photoshop, avec d'autres logiciels, et puis pas mal de créations perso à main pour tout ce qui est sculpture, pierre de Sankara, morceaux de tissu, tablette du Graal, tableau, et voilà.
Alors, parce que là, on fait de la radio, donc l'image, les auditeurs, ils s'en foutent complètement, ils peuvent pas le voir. Quand on prend justement l'une des tablettes que tu as fait, comment tu as travaillé dessus, la tablette justement des chevaliers ?
Pour la tablette du Graal, donc c'est un modèle que j'ai fait déjà sculpté dans de la terre glaise, donc avec toute la calligraphie, la croix et le relief. Après, j'ai fait un moule en silicone de cette tablette qui était en terre glaise. Et après, j'ai refait un tirage en plâtre, ce qui me permet de, pour les gens qui sont intéressés, d'en refaire de temps en temps, mais à titre gratuit.
Ah d'accord. Donc on peut pas te commander contre espèce sonnante et trébuchante, cadeau de Noël.
Ça, c'est vraiment que pour les amis et ceux qui font à qui j'apprécie. Il n'y a pas du tout de notion d'argent. Ils achètent la matière et moi, je leur fais le tirage gratuitement.
Combien de temps tu peux prendre justement à reconstituer un objet ou un truc comme ça ? Je veux dire, bon, il y a des objets, l'Underwood 1933 ou le National Geographic 39, ce serait un peu dur à faire. Hein.
Le National Geographic, j'ai trouvé exactement juste le contour du National Geographic. Par contre, tout ce qui est police, c'est moi qui les ai refaits.
Ah, c'est un fake ?
Oui, c'est un fake.
Je me suis fait avoir.
Oui, c'est un fake, c'est totalement un fake. Comme le journal du Pérou, c'est entièrement retravaillé, comme tous les autres props.
D'accord.
Comme les faux grals que l'on voit, c'est fait à partir de coupes de remises de médailles que j'ai remodifiées, repeintes. Et...
T'as dû en gagner des marathons.
Voilà, tout à fait.
À côté de cela, justement, le fait que tu exposes avec donc une garde-robe, donc à l'échelle 1 forcément, hein, puisque c'est sur un mannequin, est-ce que tu as eu des relations, des petits papiers roses, je vais dire déjà, avec la LucasArts ?
Pas du tout. Pas du tout. Moi, c'est vraiment une passion, et comme je te disais tout à l'heure, c'est de faire partager cette passion au grand public. De pouvoir qu'ils puissent bénéficier de voir des props vraiment du film, mais j'ai pas eu en dehors des acteurs qu'on rencontre sur des conventions qui disent que l'expo est super, comme John Rhys Davies ou comme d'autres personnes qu'on peut rencontrer qui ont joué dans les films. C'est tout, j'ai juste des compliments sur la réalisation.
Et est-ce que tu prends conseil avec d'autres personnes qui justement se sont spécialisées dans la reconstitution de propres ? Comment ça se passe ? Par les forums sur Internet ? Il y a des ligues ?
Je travaille effectivement sur pas mal aussi avec des gens qui sont sur... Enfin, si je peux appeler ça travailler, c'est plus qu'un loisir. C'est effectivement sur différents forums Indiana Jones où on se donne des conseils pour comment réaliser certains propres ou faire certains accessoires. Ou se procurer certains éléments de costume ou d'accessoires.
Attention, il y a un caméraman qui veut parler là.
Alors on voit qu'il y a un serpent, mais alors est-ce que c'est par amitié pour le docteur Jones qui supportait pas les rats qu'on voit pas de rats ?
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Mais il y a le serpent qui déteste quand même.
Alors évidemment, il y a deux vitrines de produits dérivés et là-dessus, ça a été vraiment l'un des films qui s'est le mieux vendu, je vais dire, en produits dérivés. Mais si on prend les films eux-mêmes, le 4, entre nous. Oui.
Moi j'ai pas aimé, il y a certains. Au niveau accessoires, il y a des choses très bien à refaire. Même si l'histoire.
T'as jubilé dans la salle ?
Un petit peu sur certains accessoires, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais refaire, essayer de refaire, notamment en accessoire papier. Après, genre le crâne de cristal, le masque d'Orellana et d'autres choses, c'est plus difficile à faire. Mais c'est vrai que c'est dans les projets, dans les futurs projets que je vais essayer de faire. Et là, le prochain projet, c'est de construire une Arche de l'Alliance échelle 1.
Ah oui, quand même, n'ayons pas peur. Il faut un gros garage.
J'ai déjà les anges, donc...
Et c'est des anges que tu pourras remonter.
C'est des tirages qu'on a refait en résine de modèles qu'on peut trouver de temps en temps sur Internet, et voilà.
Du coup, faut quand même un grand garage pour ranger tout ça. Ou est-ce que tu le tombes très régulièrement et que tu arrives à stocker uniquement dans les sorties extérieures ?
Non, j'ai un grand garage et puis comme je suis artisan, donc j'ai de la place dans mon atelier. Donc c'est vrai que non, et puis quand ça tient dans des caisses, c'est vrai que ça prend pas énormément de place non plus.
Alors tu es artisan ? Oh, tu peux nous en parler peut-être.
Donc, je suis artisan, j'ai monté une société il y a 5 ans qui s'appelle Brico Minute et qui fait du multiservice aux personnes sur la région de Grenoble.
D'accord. Et du coup, si jamais tu rentres et tu dis « Ah non, moi je vous refais la déco, mais c'est pas du Valérie Davido, vous avez envie d'une ambiance crypte égyptienne ?»
Ça peut être ce genre de choses. J'en ai jamais eu encore l'opportunité. Mais personnellement, moi je me suis refait dans notre maison une salle home cinéma qui reprend un peu les décors Indiana Jones.
Ça doit être fun.
Bon, ben, question obligée, quel est ton film préféré parmi les 3 premiers ?
Pour moi, c'est Le Temple Maudit, que j'aime beaucoup. Et après, si je dois les classer, c'est La Dernière Croisade et Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Et bien sûr, en dernier, Le Crâne de Cristal.
D'accord, mais on peut pas faire un top 5, il y en a pas encore 5. Non. Ou alors, je sais pas, peut-être qu'il faut coucher.
On verra bien ce que ça va donner, mais...
La série, peut-être.
Peut-être la série, ce qui serait bien, c'est qu'il développe un peu plus la série du jeune Indiana Jones, qui serait peut-être plus intéressante que développer une suite à Indiana Jones numéro 4.
Bah, merci beaucoup. Donc c'est tout le week-end à Toulouse. Après, est-ce que tu as d'autres expos qui sont prévues ?
Peut-être sur une exposition à Migennes, peut-être en février.
D'accord. Bah, mille merci en tout cas.
Ouais. Avec grand plaisir.
Joie, bitomane, tu deviens plus fort, transmuté, tu combats le sort, bitomane, quand tu luttes pour la loi, chérub de joie. Tu as gardé au fond de toi des parcelles de foi, vivre ou survivre à ces ravages, à cette de rage quand le mal bastonne. Le combat résonne, mais toi tu te donnes de coups de boule en coups de coude. Explose ta flamme, bitomane, tu bouges ton corps pour sauver le peuple de la mort. Bitomane, quand tu te bats pour moi, je suis fou de joie. Les ennuis, bitomane, quand tu es aux abois, je suis en émoi. De cette rixe maléfique reste une blessure qui pique. Vos corps meurtris, tourmentés, se retrouvent tout fracassés quand le mal cartonne. La douleur résonne et toi tu frissonnes de coups de larme en coups de larme. Explose ta flamme, bitomane, tu bouges ton corps pour sauver le peuple de la mort. Bitomane, quand tu te bats pour moi, je suis fou de joie. Bitomane, leurs griffes acérées te pénètrent pour te déchirer. Quand on peut voir ton foie, je suis plein d'effroi. Bitomane, bitomane, tu bouges ton corps. Si le combat te fait mal et ton destin incertain, même si tu dois rester seul, notre amour toujours te soutient. Bitomane, tu bouges ton corps pour sauver le peuple de la mort. Bitomane, quand tu te bats pour moi, ton corps, quand tu es si avoir, t'as plein de vouloir.
Et petit retour plateau, et là, j'ai passé une musique quelconque, c'est au choix, c'est au hasard, hein, je ne sais pas ce que j'ai passé. Je verrai ça, on coupera au montage.
Non, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut prédire ce qu'on va passer.
Ouais, alors dans ce cas-là, je vais essayer de passer le morceau des Beatomans, puisque Alex Pilot, justement, l'un des futurs super France 5...
Des futurs ex.
Ah, ça fait chier, ce futur antérieur. Oh, ça m'agace. Bref, tout cela pour vous dire que c'est un salon, un festival quand même, une convention dont on a déjà parlé, qui est bien évidemment assez allumée. On a donc, on a retrouvé des gens qu'on a vus l'an dernier, plein de choses qui sont à voir encore cette année. On n'a pas encore, on a eu de la flemme. À pas regarder tout le programme en détail. L'agencement est un petit peu différent. Alors sur la scène, c'est plus une scène qui est toute en longueur et qui faisait 200-300 mètres de large à peu près,
oh, hein, facile,
pour 10 mètres de profondeur. Là, cette année, ils ont pris le rectangle dans le sens inverse, ce qui, à mon avis, devrait changer, comme tu disais tout à l'heure hors antenne, ça a changé la vie de pas mal de cosplayers qui vont se sentir moins seuls.
Voilà, qui vont être beaucoup moins obligés de remplir l'espace, on va dire.
Bonjour, je suis déguisé en Sailor Moon. Sailor Moon. Là, ça va être un petit peu plus simple, je pense, pour tout le monde, et sur pas mal de choses. Relativement peu de trucs différents. Il n'y a pas cette année d'espace hentai comparé à l'année dernière. Ça tombe bien, il est 22h et plus que des pelures après 30. Et du coup, bah, je peux me permettre de passer l'interview qu'on a fait l'an dernier d'un vendeur de figurines qui avait fait l'an dernier un espace en VFX.
Cyril, bonjour.
Bonjour.
Donc tu es l'un des responsables ou le responsable du stand Culture Manga Import. Est-ce que tu peux nous présenter les stands qui sont ici au TGS?
Oui, alors en fait nous ici on a deux stands. On a un stand de figurines dites traditionnelles qui fait du Bleach, du Naruto, du One Piece et toutes les séries dérivées genre Souliter, tout ça. Et on a voulu spécialement pour le TGS faire une entité hentai donc qui est au sous-sol.
C'est uniquement pour faire plaisir au TGS ou uniquement pour se dire va avoir du chiffre à se faire?
Pas vraiment en fait, c'est déjà pour le fun parce qu'on trouve ça bien marrant, on se marre bien toute la journée, on raconte nos petites vannes. Et à côté de ça, ce qui est sympa, c'est qu'on est plus ou moins les premiers à faire ça réellement sur une convention. Donc je trouve que ça marque plus ou moins le coup. De là à dire que ça rapporte de l'argent, je dirais pas ça, je dirais que ça fait une bonne pub, c'est sympa. Et puis on peut parler un peu plus aux gens que sur le stand en haut où il y a énormément de passages, c'est beaucoup plus difficile quoi.
En gros, vous avez plus une relation avec le public de sex shop plutôt que relation traditionnelle dans une convention.
Ah, sex shop, je sais pas, j'ai jamais été dans un sex shop donc je sais pas ce que c'est exactement. D'accord. Par contre, c'est vrai que le contact physique ou le contact est bon, très très bon, c'est bien sympa, on peut bien se marrer. Puis généralement, les gens le prennent super bien quoi, c'est ça qui est excellent. Il y a un contact par rapport à ça, les gens sont super ouverts.
Bon. Est-ce qu'il y a plus d'étoiles dans les yeux d'une petite fille de 14 ans qui voit une figurine de Naruto que d'un célibataire endurci de 30 ans quand il voit une figurine de jeune fille avec la culotte très bien visible?
C'est pas les mêmes, on va dire que c'est pas les mêmes étoiles quoi. Elle n'est pas pareille.
Physiquement, qu'est-ce que ça représente pour vous de gérer deux stands à la fois?
Physiquement, heureusement, on est venus très très nombreux. Donc on arrive à se dépatouiller comme ça, mais c'est vrai que c'est compliqué. Le stand qu'on a en haut, il est énorme, on s'amuse à ouvrir carrément toutes les figurines, le maximum en exposition. Donc du coup, on doit avoir 1500 références en tout. C'est énormissime et à gérer, c'est vrai que c'est la folie quoi. On était limite ce matin, on n'avait pas tout terminé, au fur et à mesure de la journée, on en a rajouté. Donc ouais, c'est clair que physiquement, c'est hyper dur.
Est-ce que c'est vrai qu'au Japon il y a une énorme différence quoi sur vis-à-vis du cul? Le cul est relativement accessible vraiment à tout le monde. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus ouvertes par rapport à la France où grâce à Charles Pasqua, le sexe in vitro n'est plus disponible dans les affiches des kiosquiers.
Est-ce que quelles sont vos relations justement de ce côté-là? Est-ce que des fois on vous dit attention, je vais vous dénoncer, des ligues de vertu, des associations de voisinage instrumentalisées, ce genre de choses?
Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'attaque, étant donné que je fais pas ça depuis si longtemps que ça. Maintenant, on peut pas vraiment dire que c'est des figurines pornographiques, quoi. Ça reste de l'érotique. On voit jamais de vagin, on voit jamais de pénis. Je veux dire, c'est du sexy, voire très sexy. À côté de ça, bon, il y a rien de bien violent. Maintenant, tout ce qui est hentai, dessin animé, donc japonais, plutôt pornographique. Moi, je n'en fais pas réellement. Donc ça, c'est un truc que je fais exceptionnellement pour le TGS, pour les conventions, mais j'en fais pas sur mon site, par exemple.
D'accord.
C'est une chose que je développe pas, parce que peut-être que je développerai plus tard, mais moi, je vais être un des meilleurs dans le milieu de la figurine, et déjà me tenir à ça pour attaquer autre chose, quoi.
Hormis le rôle masturbatoire des dessins animés que vous avez ici, est-ce que vous pouvez conseiller sur la qualité de court-métrage que vous avez ici, qu'est-ce qui est bon et ce qui est mauvais, est-ce que quel a...
Oui, on peut assez facilement dire ce qui est bon, ce qui est mauvais.
Hein. Par exemple,
je vais taper dans le simple, quoi. Bible Black, c'est une grosse référence. C'est pas pour rien, quoi. C'est parce que c'est super bien fait. Ça reproduit à merveille ce qui se passe dans la réalité. Et c'est sûr qu'à côté de ça, il y a des choses qui sont beaucoup moins bien faites, comme dans tous les animés. Il y a du bon, il y a du mauvais. C'est clair.
Dans le cadre des produits dérivés, justement, puisque bon, vous, votre spécialité, c'est la figurine, justement, les figurines des produits mainstream, des produits grand public, il n'y a pas un problème. Il y a un grand studio, il y a un grand éditeur derrière, donc il y a des produits officiels. Comment ça se passe, justement, dans ce cas-là, pour ce qui est de ce genre de produits adultes? Est-ce que vous arrivez à obtenir, ou est-ce que vous avez des craintes, justement, de tomber sur de la contrefaçon, de la mauvaise qualité?
Pas du tout, parce que je passe par des distributeurs qui font que de l'officiel de toute façon. Donc c'est les mêmes distributeurs qui font les animés traditionnels ou mangas traditionnels au niveau figurine qui font du hentai. C'est la même chose. Il y a du faux. Moi j'en fais pas. C'est ma façon de penser. Je veux pas faire de faux, que ce soit dans le hentai ou dans la figurine. Je ne veux surtout pas faire de faux. C'est d'ailleurs une des choses qui fait que je me démarque plus ou moins des autres. Certes, sur certaines figurines, on va avoir des fois le double du prix, mais là, au niveau de la gueule de la figurine, ça n'a strictement rien à voir, quoi. Là, je peux vous montrer des preuves clairement où on va sur deux stands différents et vous allez comprendre tout de suite la différence de prix. Donc moi je joue pas à ça, déjà je veux pas être attaqué. Deuxième chose, les produits faux, le gros souci qu'il y a avec ça, c'est que c'est très 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 dangereux de vendre du faux, parce qu'on peut se faire attaquer par les éditeurs, mais en plus de ça, le matériel peut être vraiment dangereux au niveau de la peinture, des choses comme ça. Moi je joue pas à ça. Je veux vivre de ce métier là, c'est pas pour m'amuser à faire du faux et à risquer d'avoir des problèmes, non.
C'est sur le long terme.
Tout à fait.
La bandaison, plus c'est dur, plus c'est bon.
Exactement.
Finalement, sur les conventions, est-ce qu'il y a une réelle visibilité pour ce type de produit ici? Est-ce que vous innovez sur le TGS, ou est-ce que vous avez déjà dû ou peut-être refusé des opportunités comme ça sur d'autres salons?
Le TGS, c'est le seul qui m'a permis de le faire, concrètement. Ça, c'est bien. J'aimerais le faire ailleurs. J'ai des propositions. Des bonnes propositions, et où cette fois on va mettre encore plus de moyens, parce que là on a quand même été mis au dernier moment ici. On n'a pas pu se préparer comme on a voulu, parce qu'on a fait ça trop tard. Il manque des affiches, il y a plein de petites choses manquantes qui font que on ne trouve pas facilement, mais ça va venir, et puis la prochaine fois ce sera encore mieux.
D'accord. Question zoologie, les octopodes en général n'ont qu'un seul pseudopode sexuel. Alors, quel est le record du nombre de pseudopodes que peut mettre une fieuvre dans une fille dans un dessin animé que vous ayez vu jusqu'ici?
Mon Dieu, oh là là, on doit dépasser les 100, voire 200, quoi.
D'accord.
Il les a comptés.
Bon, en tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merci d'être venu. C'est dommage. Vous restez pas donc pour le salon de l'érotisme la semaine prochaine?
Ben, j'aimerais bien, mais ils veulent pas de moi. non, j'ai du travail, donc non, je pourrais pas. Mais merci à vous. En tout cas, c'était super sympa.
Merci.
Merci Cyril.
Pardon, excuse-moi Thomas.
Tu sais, ouais, non, pas exactement. Ah, où c'est que je l'ai mis? Ah, punaise. Non, alors voilà, tu vois, c'est quand tu vis avec des chats que tu as des bouquins partout que tu reçois ou ta quiche, ce que tu retrouves plus. Ah, ça c'est les tiens. Je sais pas, tu veux peut-être récupérer celui-là aussi.
Allez.
Bon, voilà, merci.
The Boys, c'est du sport.
Ça cartonne.
Ah, mais attends, ce The Boys-là, je l'ai pas lu.
Ah, mais non, il vient de sortir.
D'accord.
Dans les bouquins que tu m'as emprunté, je crois que c'est toi qui as pris le Arabico.
Oui, entre autres.
Oui, ça tombe exceptionnellement bien justement que l'on parle de Arabico, puisque donc Halim Mahmoudi, qui est le dessinateur, sera dans le Super Week-end la semaine prochaine, avec Serge Pelé, qui lui est le dessinateur de Orbital, dont le troisième tome a été déjà sorti depuis environ 2 mois. On les recevra la semaine prochaine en direct dans le Super Week-end. Cette fois-ci, on sera vraiment en direct de retour. Et le samedi suivant, samedi 12, on aura deux auteurs qui seront présents. Non, ça c'est autre chose. Samedi 5 décembre, le même jour, mais puisque les deux auteurs sont invités à la librairie Terre de Légende à Toulouse. Et à la librairie Gilbert Joseph, il y aura Baptiste et Mézil, qui sont les dessinateurs de La Guerre de Sambre. C'est une spin-off de la série Sambre. Non, tu connais pas, c'était début années 90 et tout, ça faisait vachement triper les ados, c'était super. Et ben, on a donc les auteurs de Pico Bog, qui est une bande dessinée assez rigolote et poilante. Et non, je ne vais pas en parler plus parce que tout simplement je l'ai pas encore vu, le troisième tome qui s'appelle Question d'équilibre et qui est sorti chez Dargo, à savoir Alexis Dorman au dessin et Dominique Rock au scénario. Ils seront en dédicace à la librairie Ombre Blanche le vendredi 11 décembre, excuse-moi. Mais le lendemain, on les recevra en direct dans le supplément week-end. Ils nous viendront nous voir, ça me fait beaucoup plaisir, encore une fois. Non, toi non plus. D'accord.
Tant qu'il faut accueillir des auteurs, on est toujours enthousiastes. En plus, on peut démolir leur bouquin sous ses yeux, c'est génial.
Oui, je pense qu'on va éviter un Arabico très, très, très bouquin extrêmement fort et Orbital vraiment génial. Et la presse est unanime autour de Pico Bog, donc je ne l'ai pas encore lu. À ce qui paraît, ça vaut le coup. On verra ça. On revient à notre culture otaku.
Oui, on est en plein. Hein.
Parce que c'est vrai que c'est une culture otaku vraiment pile poil. Il y a de la série pour les geeks et tout le reste. Il y a aussi ce qui est purement japanime, manga. Si je te demande une série purement otaku, une série qui fait référence. Non, regarde pas.
Oui, de façon, la série par excellence, il y en a beaucoup. Généralement, ce sont les séries avec les mechas, les Gundam, etc. Mmh. Parce que c'est vrai que les otaku sont plutôt des gens qui ont la collectionnite aiguë pour leur petit appartement. C'est vrai que collectionner des robots, voilà. Donc il y a aussi la collection de filles un peu dénudées, mais ça, c'est autre chose. Et c'est vrai que la série qui combine à la fois les mechas assez particuliers et les filles dénudées, j'en vois qu'une. Hein.
Ça reste léger, hein, encore les filles.
Oui, et ça fait aussi. Quand tu vois les
goodies. Tu parles à Gunbuster, tu parles peut-être.
Hein, non, je pensais au bouquin que tu as sur les genoux et voilà. Dont on peut apprécier tout l'éventail des jolis goodies à la fin.
Voilà, puisque en fait cette émission est en vidéo, donc vous pouvez pas le voir. Mince, tu me parles parce que tu tiens pas la caméra.
Non, la caméra elle est.
The Essential Evangelion Chronicle, c'est autour de la série Neo Genesis Evangelion. Qui est arrivé sur les écrans au Japon en 94-95, ça fait 15 ans, on l'a oublié, on l'a eu relativement vite en plus en France.
Oui, entre 2 ans et demi à peu près après.
Série extrêmement culte du studio Gainax, qui s'était fait connaître auparavant pour Nadia et le secret de l'eau bleue, mais surtout pour Otaku nos vidéos et ensuite pour un autre film qui lui aussi était sorti si je crois qu'il était sorti au cinéma, donc je dis probablement une bêtise, qui était Les ailes données à Missé. Sauf que là, ils avaient fait une série extrêmement introspective, étrange, et en même temps très référencée pour les otaku, puisque c'est des ados qui se retrouvent à piloter des robots pour sauver la Terre d'envahisseurs extraterrestres qui sont des anges. Et c'est des robots qui, en fait, ont des armes assez étranges. Ils ont des cutters. Donc c'est une référence directe, je vais dire, à tous les gros fans de maquettes, comme justement ils étaient tous dans la série. Et c'est une série qui a encore un culte extrêmement présent, qui a un nombre de produits dérivés réguliers absolument surprenant, je veux dire, pour le truc qui existe encore. Je crois qu'il n'y a que Albator hein, qui a vécu aussi longtemps, mais à l'époque il n'y avait pas justement tout ce genre de produits dérivés, puisque c'était pas un public franchement adolescent, c'était plutôt il était adolescent au Japon, mais on pensait pas à s'adresser aussi aux jeunes adultes.
Bah là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est vrai qu'ils soignent particulièrement les goodies, puisque il y a très peu de produits dérivés qui soient ratés. On peut débattre là-dessus sur la série de mangas, puisqu'il y en a, il y en a quelques-unes qui sont dérivées assez inégales d'un point de vue qualitatif. Après, c'est vrai que c'est une série qui joue sur plusieurs tableaux. Chaque fois qu'on vous en a parlé à l'antenne, on l'a souligné. C'est une série, tu peux voir pour un premier visionnage, un deuxième visionnage, un troisième visionnage. À chaque fois, tu vas voir quelque chose de particulier que tu n'auras pas vu lors des premiers visionnages avant. Et c'est vrai que c'est aussi une série qui fait la part belle, qui fait des clins d'œil aux maquettistes, mais également à tout petit adolescent qui est très inhibé de la
voiture. Il y a un des personnages qui est un fou des armées, énormément de choses que l'on retrouve. Et pour c'est quasiment les 15 ans de la série, ben c'est The Essential Evangelion qui est c'est à la fois un sourcebook, databook, c'est-à-dire les données autour de la série elle-même, et à la fois une encyclopédie avec, à la fin, un catalogue de goodies. C'est chez Glénat, c'est en grand format, c'est d'ailleurs le même format que Dermonk, qui était le hardbook qui était sorti chez Glénat autour de la série.
Oui, c'était un excellent artbook avec des crayonnés. Il faut aussi rappeler ce bouquin est un excellent moyen pour vous rafraîchir la mémoire, puisqu'il y a aussi les longs métrages qui sont en train de sortir. Puisque le premier, il y a eu des séances très très éparses et très rares en France, et le deuxième a déjà été projeté, le deuxième long métrage au Japon. Donc c'est une trilogie qui est en cours, qui reprend effectivement 85% des plans de la série avec des nouveaux effets spéciaux
et qui revisite d'ailleurs une partie du scénario. The Essential Evangelion donc est un bouquin plutôt écrit axé autour des 13 premiers épisodes de la série, d'où son nom Side A. Le Side B comprendra la conclusion et très probablement les différents montages de la conclusion, puisqu'il y en a eu plusieurs. C'est un bouquin vraiment les fans absolus, à mon avis, ne vont pas découvrir énormément de choses, parce qu'ils sont en 15 ans, ils ont eu le temps de se documenter, c'est des furieux, ils connaissent sur le web, etc. Par contre, pour les gens qui sont un peu curieux, qui ont vu la série une fois, ou qui l'ont en DVD mais qui ne sont pas allés plus loin, c'est justement un élément qui est intéressant. Il y a les timelines, les relations entre les personnages, il y a les still sheets des personnages. Ça va un peu de tout. C'est une encyclopédie, donc des fois c'est un peu diarrhéique, je vais dire, hein, dans les éléments que l'on ressort, puisque à la fin, par exemple, on a tous les goodies en Lego qui avaient été faits. La réalisation du livre est impeccable. L'impression est correcte. Les traductions sont franchement on n'a rien à redire dessus. Il y a les présentations des anges, il y a les présentations des techniques de combat. Il y a ceux qui connaissent Evangelion. Ils auraient du mal à passer à côté, à mon avis.
Oui, même si la plupart des documents visuels qui sont dedans, ils ont déjà été publiés dans d'autres artbooks. C'est vrai que c'est quand même une bonne compilation qui s'adresse, comme tu l'as dit, principalement à ceux qui connaissent un peu moins ou qui ont envie justement de s'y replonger, qui n'auraient pas eu en leur possession les autres artbooks.
Après, si vous l'offrez à quelqu'un qui a jamais vu la série, ça c'est une immense erreur, parce qu'il y a énormément de détails, de trucs comme ça. C'est là où je me suis rendu compte, j'avais pas vu tous les épisodes. Honte à moi, je n'avais pas tout vu.
Va-t'en te faire flageller.
Non, pas dans cette série, quoique. Mais en tout cas, il y a une culture otaku de toute façon, et c'est vrai qu'il y a eu un avant Evangelion et un après Evangelion. Evangelion a été la série qui a permis d'autres séries cultes par après, comme Serial Experiments Lane ou encore Dot Hack ou Cowboy Bebop. Ça a vraiment été le moment où il y a eu un virement et il a été assez flagrant. Et c'est une série qui a une, je veux dire, un culte qui est plutôt mondial de ce côté-là. Il y en a qui sont complètement à fond dans la série. Ça se comprend largement. Peut-être justement l'occasion de le découvrir. Autre chose, lui, là aussi, qui est sorti chez Glénat, c'est Robot. Robot, en fait, est un prosine. C'est-à-dire que c'est fait par une scène semi-amateur, même s'il y a des auteurs professionnels qui dessinent dedans. Un magazine très luxueux, justement dans le même format, hein, le format artbook, avec une 120-150 pages, hein, je veux dire assez tassé, avec une impression très luxueuse. C'est un prosine japonais que l'on voyait dans les festivals internationaux. D'ailleurs, ils étaient passés vraiment inaperçus à l'époque à Angoulême quand ils étaient présents. Ils étaient présents avec le premier et le deuxième tome. Et il y a eu un éditeur qui... je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était Tournon qui avait fait la traduction du premier tome. Et plus de nouvelles depuis. Alors, je crois que maintenant ils en sont au tome 5, tome 6 au Japon. Bien après, Glénat a traduit le deuxième tome, vient de sortir le troisième tome et il ressort le premier tome. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de retrouver ce livre. Parce que, d'abord, c'est des tirages en couleur, c'est-à-dire qu'on a des planches en couleur qui sont... c'est là où on voit vraiment un travail de dessin de couleur qui est absolument magnifique. C'est des petites histoires complètes que l'on a dedans, plutôt réservées aux ados adultes, avec des styles graphiques très étonnants. On sent vraiment qu'il y a une influence directe du comics ou de la BD européenne. Ce qui est aussi très agréable, c'est qu'il y a des auteurs qui font des styles complètement différents. Comme on n'est pas dans le noir et blanc, on peut travailler sur les textures, sur les couleurs. Ils se font des délires incroyables et c'est extrêmement agréable. Robot a vraiment été un livre d'art publié par Wani Magazine. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que ce numéro a été sorti en 2005 sur la note de copyright. Y a dedans des auteurs qui ont éclos par la suite. C'est tout à fait normal. On est loin du manga noir et blanc habituel. On est loin du manga de studio où le mec il travaille rarement seul. Il a toute une tout un groupe, je veux dire, d'assistants derrière qui travaille à fond. Il y a vraiment il y a des styles graphiques qui sont très différents. Ça peut être du contemplatif, ça peut être du surbrutal, voire carrément du cyberpunk et tout ça. Il y a du sentiment, ou bien il y a plein de genres différents. Robot est pour moi une référence justement parce que c'est un peu ce qu'avait fait à une époque l'association avec Comics 2000. En fait, ils avaient demandé 3 pages à des centaines d'auteurs pour faire un bouquin de 2000 pages. C'était un instantané de la bande dessinée mondiale en noir et blanc. Là, c'est un instantané couleur, je vais dire, des styles graphiques de l'auteur. C'est un vrai catalogue. C'est un vrai plaisir de lecture. Ça tient à la fois du hardbook par le format et l'autorisant, je veux dire, par les thèmes et les styles et le graphisme abordé. On a des planches qui sont juste commentées par quelques textes, et des planches qui prennent toute la page sans que ça soit vraiment une histoire suivie, avec juste des pensées qui sont jetées dessus. C'est une expérience réellement différente du manga pour ceux qui ne connaissent justement que les séries poches éditées en noir et blanc qui après sont adaptées à la télévision. On a un vrai travail d'auteur de ce côté-là. C'est un bonheur à lire. Je vous invite à aller sur le site wani.com/robot.php. Vous aurez une preview justement de l'état de l'art actuel, de ce qu'ils font. Et c'est un bouquin qui vaut un certain prix, hein, quand même. Il n'est pas franchement donné. Parce que là, quand même, 22 euros, ça calme un peu. Mais...
Le prix d'un arme pour un artbook, c'est pas cher. Hein.
Mais voilà, on a vraiment... Alors, on ne va pas trouver dedans un auteur très précis. Mais justement, ce sont plein d'auteurs indépendants ou semi-pro. qui se donne à fond dedans, et c'est très agréable. C'est d'une lecture qui est vraiment rafraîchissante.
Alors, petite précision, ça s'appelle Robot, mais c'est pas construit autour du thème du robot, hein.
Non, loin de là, justement. Voilà. Donc c'est... Il y a du fantastique, du quotidien, du sentimental. C'est... Il y a peu de choses à redire.
Oui, je crois que tu n'en as pas parlé, mais c'est vrai que c'est le mangaka qui est l'instigateur de tout ça et qui était à Angoulême l'année dernière pour faire des dédicaces à la tablette graphique, des démonstrations techniques à la tablette graphique. Donc il s'agit de Range Murata, hein, bien sûr.
Oui, pardon, j'avais oublié de le signaler. Ce qui est déjà bon, c'est un gage de qualité justement de ce côté-là. Et que c'est un vrai travail d'illustration, donc de ce côté-là. Faire un break comme ça, etc. Ça change, hein, du studio habituel, là, avec la poussière où je suis debout.
Oui, là, c'est plus cosy. On est entouré
avec... Non, c'est cosy. Non, mais va dans le fauteuil, là. Il y a le chat qui l'a libéré.
Non, c'est bon, je suis sur ma chaise. Ça me pousse à pas être calé.
Viens sur mes genoux, viens.
Ah, bon, oui, là, on précise, plaisir. Il parle à son chat. Hein.
Voilà. Thomas.
Oui.
Tu as une rubrique, entre guillemets, cinéma.
Voilà, donc je vous ai préparé, comme on est en plein festival pour les geeks et otaku, donc même si ces deux mots sont un peu récupérés...
Galvaudés, à la mode...
Galvaudés, et récupérés par beaucoup de gens qui s'aperçoivent que les geeks ont un pouvoir d'achat, là je vais vous...
Tu penses à notre Premier ministre, toi ?
Pourquoi lui ? Je ne sais pas.
Fillon, il a dit qu'il était geek.
Ah bon ?
Ouais.
Ah, je savais pas. Je vous ai concocté un petit programme assez léger, hein, autour des sorties salles et sorties DVD pour les films qu'il faut voir ou que nous on vous recommande. Peut-être qu'il y a autre chose à voir, hein, bien sûr. Alors, on va commencer par du lourd, hein, bien sûr. Donc, le 9 décembre prochain en salle sortira Astro Boy de David Bowers. Je pense qu'on peut pas faire plus dans l'actualité puisque évidemment il s'agit d'une revisitation en 3D et par des Américains de l'œuvre phare de Osamu Tezuka.
On s'inquiète beaucoup, hein. Moi personnellement, en tout cas moi, je m'inquiète des bandes annonces que j'ai vues. Je sais pas, j'ai un peu eu du mal.
Ça a l'air à la fois sympa, mais assez lointain par rapport au style originel.
Voilà, pour moi le meilleur hommage qu'ait pu faire un Américain à Astro Boy, ça reste Big Guy de Geoff Darrow.
Big Guy,
même s'il vit en France. Mais où là justement c'était un gros délire avec un gros robot américain tout en boulon face au petit enfant soldat robot japonais. On verra ce que ça donne. En tout cas, ça sort pile à temps pour Noël. Je pense a priori qu'ils vont garder l'esprit, je vais dire, un petit peu enfantin de Tezuka dans cette série.
Ensuite, deuxième référence en salle prochainement qui sortira le 23 décembre, il s'agit de Ninja de James McTague.
Avec plein de A ?
James, non, Ninja tout court. Donc James McTague, c'est le gars qui avait fait V pour Vendetta sous l'égide des frères Wachowski et produit par Joel Silver. On retrouve dans cette petite équipe donc aux commandes de Ninja avec Jung Ji-hoon qui est plus connu sous le pseudo de Rain. Qui jouait déjà dans Speed Racer des frères Wachowski. Et il y a également Sun Kang qu'on a vu dans Fast and Furious 3, Fast and Furious 4 et Rick Yoon qu'on a vu dans Fast and Furious 1. Voilà. Rick Yoon qui joue aussi le méchant dans Meurt un autre jour, le James Bond le dernier avec Pierce Brosnan. Alors voilà, donc Ninja, un film de Ninja, on attend de voir ce que vont nous préparer la nouvelle production des Wachowski. Et sinon, entre les deux films, évidemment, on va vous parler de La Bombe Atomique, hein, qui sortira le 16 décembre, j'ai nommé un film qui commence par un A et qui est réalisé par James Cameron, Avatar, donc la nouvelle bombe du réalisateur de Titanic et Terminator et autres joyeuseries du bonhomme. Donc un film avec Sam Worthington, avec Sigourney Weaver, et donc qui raconte dans un futur un héros qui donc doit commander se mettre dans la peau d'un avatar pour approcher le peuple des Navis qui essaie de protéger coûte que coûte l'écosystème d'une planète qui veut être exploitée par l'armée. Alors ça, c'était oui.
Non, je tiens à préciser que Thomas est très 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 enthousiaste. Il faut dire qu'il a vu justement la preview au cinéma.
Alors c'est vrai que nous avions eu...
on en avait parlé à l'époque.
Oui, voilà, nous avions...
On avait fait une chronique sur une base seulement de 15 minutes de vue. On verra, hein, justement.
Voilà, donc on avait vu une première bande-annonce sur le net qui faisait très démo de jeux vidéo. Et c'est vrai que les 15 premières minutes de film, enfin les 15 minutes parmi la première demi-heure du film, nous avaient véritablement scotché. On voyait bien qu'il y avait un discours intelligent derrière.
Il l'a dit véritablement.
Eh oui.
Ouais.
Mais non, toi tu es en train de choper le tic, je vais dire. Voilà. Alors maintenant, ça c'est sorti, ça c'était les sorties cinéma. Maintenant, on va parler des sorties DVD. Alors là, j'ai mis de tout, hein, de la lobotomie, de l'intelligent, du pas intelligent.
Alors il y a Nerds, il y a Flanders Company, il y a Noob.
Alors
ils sont. Enfin non, il n'y a pas la Flanders, mais.
Alors justement,
Flanders, on a vu le nouvel épisode tout à l'heure sur No Life, et d'ailleurs ça m'a fait plaisir pour 101%, c'était Tristan Nito et qui était co-invité de la Mozilla Foundation. C'est sympa. Ça on pouvait pas faire plus geek.
Alors justement, je n'ai pas parlé des sorties DVD estampillées No Life, mais nous allons commencer par de la lobotomie vraiment c'était la sortie ciné où il fallait prendre la vaseline. Donc il s'agit de Transformers 2 de Michael Bay.
T'aurais pu dire que le cerveau était à laisser à l'entrée pour pas le salir.
Ah non, mais là c'est pire, parce qu'il y a beaucoup de films comme ça. Là, ça défie de toute estimation. Hein, le dernier film de Michael Bay, donc qui sort en DVD le 1er décembre. Donc voilà, Transformers 2, si vous voulez vous faire pulvériser le cerveau en vous faisant prendre pour des cons avec un mec qui joue avec des gros jouets très chers, ce film est pour vous. Une sortie DVD qui sera suivie le lendemain par L'Âge de Glace 3 de Carlos Saldana, le film d'animation qu'on avait trouvé bien sympa, rigolo, voilà. Le même jour sort alors un film qui annonçait le retour d'un grand maître du film gore, enfin du film fantastique en tout cas. Je me rappelle que à l'époque de sa sortie cinéma, les journaux avaient titré les gamins c'était le passage, papa est de retour. Donc le dernier film de Sam Raimi, Jusqu'en Enfer, qui sort le 2 décembre, donc excellent film que nous avions chroniqué sur cette antenne. Le même jour sortira alors L'Énigme, c'est thaïlandais, c'est un film d'arts martiaux, Ong Bak 2 de Tony Jaa, remonté, charcuté par Europacorp. On en avait parlé également au cinéma. Le très sympatoche film Vengeance de Johnny To, avec Johnny Hallyday. Anthony Wong,
il crie sur tous les toits de Paris comme quoi Quentin Tarantino lui écrirait un scénario exprès. Je parle de Johnny Hallyday.
Oui, j'ai entendu ça aussi, et que ce serait peut-être pas le seul film qu'il ferait avec Johnny To. On sait pas, on demande à voir. Ensuite, un autre film que je chroniquerai à l'occasion de la sortie DVD le 15 décembre, il s'agit de G.I. Joe de Steven Sommers. Alors lui, je parlais de lobotomie, là je pense qu'on peut parler de stupidité abyssale, mais je vous préfère vous garder la surprise, c'est quand même du très gratiné.
C'est gentil, oui.
Voilà, ensuite on va finir par de meilleure qualité avec Là-haut de Pete Docter, donc le dernier Pixar qui sort le 16 décembre, donc ça c'est très bien pour Noël. Les Pixar, c'est toujours de la haute qualité. Vous savez très bien que vous allez faire plaisir en offrant ce petit DVD collector. Donc, il n'y a pas de risque de ce côté-là.
Les shaders sont bien calibrés, donc pas de soucis, comme le scénar.
Voilà. Ensuite, le 23 décembre, également une très très bonne idée de cadeau pour Noël. Pogno sur la falaise. Donc, évidemment... voilà. Tais-toi aussi.
Voilà. Bon, allez les chats. Allez,
le dernier, Hayao Miyazaki, qui est poétique et qui revisite le conte qui avait déjà inspiré La Petite Sirène. Et on finit par le plus énigmatique, comme toujours chez ce gars-là. Donc si je te dis, Xavier, parabole sur le temps de paix après une longue période de guerre, si je te dis animation contemplative, si je te dis Kenji Kawai, si je te dis des personnages déshumanisés qui essaient de...
Ghost in the Shell numéro 6.
Oui, voilà, donc c'est Mamoru Oshii qui sort son dernier film d'animation. Ce film sort en DVD le 27 janvier, donc c'était pas pendant
c'est
la
pas,
de
c'est
Noël,
pas de suite, ouais.
Mais c'est quand même Skycrawlers, donc le dernier film de Mamoru Oshii. Ah. Alors c'est un film qui a été produit en 2007, alors voici le pitch.
On l'a pas vu au cinéma, hein.
Non, il n'est pas sorti en cinéma en France, ouais. Ou alors dans très très peu de salles, mais il me semble
sortie
pas.
Sortie technique.
Alors, le temps est suspendu, les guerres n'existent plus, une base militaire décrite comme un purgatoire entre paradis et enfer, et le théâtre d'une errance d'anges déchus qui sont enrôlés pour piloter des avions de chasse. Ce sont des adolescents génétiquement conçus pour ne pas vieillir. Mais ils semblent tous vouloir faire preuve d'autodestruction. Le film, apparemment, est très long. Il dure 2 heures pour
ça
un film d'animation.
Un peu Évangélion.
je pense en plus dépressif.
Oui.
Alors, les rares articles que j'ai pu voir sur le net pour l'instant décrivent ce dernier film comme très long, très vaporeux, mais très très beau et très porteur d'émotions en tout cas. Donc, comme toujours chez Oshii, qui est toujours un petit peu froid, hein, mais qui nous a jamais déçus, même dans les films les plus difficiles d'accès comme Avalon ou des trucs un peu plus où il faut se creuser la tête. On pense aussi à l'innocence. Donc ça, c'est vrai que Skycrawlers, je pense que j'irai faire un tour à mon disquaire préféré avec la furieuse envie d'acheter ce dernier né de Mamoru Oshii et puis de le voir jusqu'à l'accord pendant 15 fois pour essayer de comprendre la moindre allusion.
Ça va être bien parce que ce sera après Angoulême, tu seras un petit peu ratiboisé, fauché des blés comme tout le monde.
Voilà. Donc c'était tout pour les sorties cinéma et DVD.
Et c'est tout donc pour ce supplément week-end qui a été exceptionnellement préenregistré, puisque en ce moment là, tel que vous nous entendez à la radio en direct, eh ben on sera à la salle Diagora à La Beige pour le 3e Toulouse Game Show. En plus on va faire plein d'interviews et tout ça. Nous on se retrouve samedi prochain. Juste plusieurs choses à signaler entre temps, et comme quoi j'avais pas tout prêt. D'abord on aura bon ça va, arrêtez de me chambrer. Non, oui, j'ai pas tout fait.
C'est bien, tu as déjà ton ordinateur portable avec toi quand tu réalises l'émission, mais là tu as un plus grand écran.
Oui, là c'est un petit peu plus grand, mais je me paume quand même, hein, c'est quand même pas
ce n'est pas la peine de râler après le matériel du studio. On est très bon tout seul.
Pour une fois, je suis très bon pour me planter, hein, faut pas croire.
C'est qu'on n'est pas en direct, on pourra couper ça au montage.
On va voir
si t'as des couilles.
Même pas. Non, je veux même pas vous le remonter. Samedi prochain, donc, en direct dans le supplément week-end, on recevra Serge Pelé, dessinateur d'Orbital, et Alim Mahmoudi, dessinateur d'Arabico. Ce sera en direct à midi dans le supplément week-end. À noter qu'à 15h, ils seront en dédicace à la librairie Terre de Légende rue Gambetta à Toulouse. Et ensuite, il y aura le même jour à Toulouse une autre dédicace. C'est celle-là. Voilà. Vincent Mézil et Jean Bastide qui seront à la librairie Gilbert Joseph pour dédicacer Hiver 1831. C'est le 3e tome de la série Fille de la série Fille Sambre dessinée par Bernard Isler. Sauf que là justement, et ben c'est le cycle Hugo et Iris qui fait partie de la série Fille La Guerre des Sambres. Donc c'est le 3e tome Hiver 1831. Sera samedi 5 décembre à partir de 15h à la librairie Gilbert Joseph. Le même jour, quand je dis que le 5 ce sera encombré, il y aura une install party Ubuntu. Alors Ubuntu c'est une distribution de Linux, c'est-à-dire que Linux est un logiciel libre, un logiciel gratuit, mais pour l'installer on peut utiliser une distribution pour l'installer très facilement. Ubuntu veut dire humain. Voilà. Je ne sais plus en quelle langue. En Wolof, oui. Peut-être.
Nos amis sénégalais pour nous confirmer, effectivement.
Non, le Wolof, mon cher petit gars, c'est en Afrique du Sud.
Le Wolof est parlé au Sénégal, je te le garantis.
Bon, à mon avis, il y a quelqu'un qui a dû se tromper d'ici. ce sera à l'ENSET à Toulouse. L'ENSET, c'est une école d'ingénieurs.
Qui avait déjà accueilli Benjamin, tiens.
Oui. Tout à fait, en centre-ville. Parmi les personnalités présentes, Alix Cazenave, chargé des affaires publiques à l'association April, qui est pour la promotion des logiciels libres. C'était vraiment les gens qui ont vraiment fait beaucoup pour lutter contre Adopi. Il sera pas tout seul là-dessus, justement, parce qu'il y a Jérémy Zimmermann, qui est cofondateur de la Quadrature du Net, qui se bat justement contre une privatisation de l'Internet et le fait qu'on puisse couper Internet sur simple suspicion. ce qui a priori va permettre la loi Hadopi. Benjamin Bayard, président de FDN. FDN, c'est l'un des premiers fournisseurs d'accès internet, on dit FAI, qui existait en France. Et c'est un FAI indépendant, et il avait écrit, il avait fait une conférence absolument géniale et fabuleuse qui s'appelait Internet ou le Minitel 2.0. Et quand on voit que France Télécom, ils font des factures de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions par mois pour utiliser une clé 3G, on est en plein dedans. C'est les internets. Internet n'existe que si c'est libre. Et là, justement, c'est tous ces opérateurs qui essaient de faire un internet fermé, privé, avec du contenu qui leur est exclusif. Nicolas Barcé, qui est responsable Ubuntu Server chez Canonical, puisque Ubuntu sert à faire tourner des sites web. Toi du supplément week-end tombe dessus d'ailleurs. Thierry Stoer, qui est président de l'AFUL, association des utilisateurs, association française utilisateurs de Linux, et principal mainteneur du site format-ouvert.org. Voilà, je vais y arriver. Et pour terminer, le 12 décembre, il y aura à la librairie Ombre Blanche, pardon, le 11 décembre, à partir de 16h, ils seront en dédicace. Ce sera donc Alexis Dormal, qui est le dessinateur, et Dominique Rock, qui est le dessinateur de Pico Bog. Le troisième tome s'appelle Question d'équilibre, où on retrouve un Pico, qui est un garçon qui est très très agité, et sa petite sœur qui s'appelle Anna. C'est une série de gags. On les recevra le lendemain, le samedi 12 décembre, dans le Super Bowl Weekend. Ce qui fait beaucoup de choses, là. Voilà. En attendant, je rends l'antenne à du sport, qui doit trépigner d'impatience pour passer ses disques. Et pour une fois, on va terminer à peu près à l'heure, puisque ce programme doit normalement se terminer pour le direct aux environs de 13h22. Donc du sport, tu dois être très content, tiens, tu dois terminer à peu près proprement. Si vous avez manqué le début du supplément week-end, sachez que nous sommes cette semaine au Toulouse Game Show 3ème édition, qui a lieu en ce moment à Toulouse. Et si vous avez manqué le début, n'hésitez pas à aller sur le site internet de l'émission supplémentweekend.fr. Vous pouvez écouter l'intégralité de cette émission, jouer à des chroniques écrites, fouiller dans vos archives, jouer à des quiz stupides, laisser vos commentaires, poser vos questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web supplémentweekend.fr. Vous écoutez FM1 sur 89,1 MHz. Nous sommes en direct en maintenance avec Booster FM, et on continue sur www.radio-fmr.net. Merci beaucoup à Du Sport, qui a fait la réalisation pendant le direct, pendant que nous on est en train de s'amuser dans les allées et contre-allées. Merci beaucoup à l'équipe du Toulouse Game Show et à Sébastien Laurens pour son accueil très chaleureux. Merci à tous les exposants qui ont bien voulu jouer le jeu avec nous alors qu'ils étaient en train de tout installer. Et encore mille merci à Manu, mais il sait pas encore pourquoi. Voilà, c'est la surprise vidéo. Nous on se retrouve en direct samedi prochain. Ciao, bye bye.
Salut.